France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Les courants libertins, un état d'esprit, c'est notre série de cette semaine. Nous abordons aujourd'hui les grandes œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles qui traitent de la liberté sexuelle et amoureuse. La liberté de mœurs dans la vie et la littérature des libertins, c'est donc le sujet de cet épisode. Mais nous ne dessinerons pas une ligne droite et paisible entre tous les auteurs abordés dans cette émission. C'est même tout le contraire, nous soulignerons les différences, les singularités. Remarquons par exemple que le Don Juan de Molière, en 1665, ne présente aucune scène de sexe. À peine une tirade aborde-t-elle le plaisir sensuel. Don Juan défie les dogmes religieux et sociaux, à commencer par le mariage. Mais ce mariage, il s'en moque avant tout en le proposant à toutes les femmes qui prennent cet engagement au sérieux. Ainsi, cette pauvre Charlotte, dont il jouit de défaire le projet nuptial avec son Pierrot. Au contraire, le Don Juan de Mozart, en 1787, commence par une scène de viol, un cri, une fuite, une poursuite. La prédation charnelle et violente est au centre de l'opéra. Quant à Casanova, auteur, narrateur et personnage principal de son œuvre, il donne l'impression dans la séduction amoureuse de vouloir être pris plutôt que de prendre. Mais faut-il faire confiance à ce qu'il dit ? Les Liaisons dangereuses de 1782 seront évoquées elles aussi ce matin. Son auteur Laclos concevait ce livre comme une démonstration de l'erreur et du mal logé dans le libertinage, lui qui préférait penser l'amour du côté de Jean-Jacques Rousseau. Mais là encore, rien n'est simple. Les destins de ces divers personnages raffinent le propos et la pensée. Le libertinage est une lecture, et les libertins étaient de grands lecteurs, nous l'avons vu, mais il est aussi une écriture, ne l'oublions pas. Et pour en parler, je suis heureuse de réunir dans ce studio deux très grands connaisseurs de la littérature libertine. Bonjour Jean-Charles Darmon.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature française à l'École normale supérieure de Paris. Après nous avoir éclairé hier en particulier sur Jean de La Fontaine, libertin, vous nous faites le plaisir de revenir aujourd'hui pour parler du libertinage de mœurs et sa représentation littéraire. Vos travaux sont nombreux, si nombreux que je renvoie à notre site pour les découvrir en détail. Et bonjour Michel Delon.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de littérature française du XVIIIe siècle de l'université Paris 4 Sorbonne, on dit maintenant Sorbonne Université, je crois.
Oui.
Oui. Vous avez publié Le savoir-vivre libertin chez Hachette Littérature, mais encore plusieurs ouvrages sur Casanova et aussi sur le marquis de Sade. Sade, que nous évoquerons aussi ce matin, même si ce bloc d'abîme, comme disait Annie Lebrun, est peut-être exorbitant par rapport à la tonalité habituelle des œuvres libertines. En tout cas, je vous poserai cette question. Pour commencer, écoutons le Don Juan de Molière parler de la rencontre amoureuse, de la liaison et de la déliaison inévitablement rapide.
Quoi ? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend ? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne ? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion, et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont le droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit pas dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rend à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par 100 hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et l'amener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais quand on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini.
Tirade célèbre de l'acte 1 de Don Juan, ici dite assez magistralement, me semble-t-il, par Michel Piccoli, dans le téléfilm de Marcel Bluval, d'après la pièce de Molière. Don Juan ou le festin de Pierre, c'est un film de 1965. Jean-Charles Darmon, une des choses qui frappe dans cette tirade, c'est cette façon qu'a Don Juan de dire « Eh bien, c'est comme ça la nature, c'est comme ça ». Ça ne dure pas, l'excitation amoureuse, c'est ainsi. Et à cet égard, peut-être est-ce une réponse à son père, qui vient le voir pour le sermonner et qui lui dit qu'il est un monstre dans la nature. Sans cesse, Don Juan dit « Non, je ne suis pas un monstre dans la nature, je suis la nature, je l'admets ». Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Charles Darmon ?
Oui, alors, vous avez raison de souligner ce rapport que Don Juan a à la nature dans la manière de développer ce qui pourrait apparaître comme une série de lieux communs sur l'inconstance. C'est-à-dire que des inconstants au théâtre, en poésie, il y en a eu beaucoup tout au long de l'âge baroque. Éloge de l'inconstance, parce que l'homme est inconstant. Et ça, on renvoie à une sorte de vanité. Mais dans le cas précis de Don Juan, effectivement, il y a un degré de réflexivité assez fort. Oui. Parce qu'il dit, les hommages rend à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Et alors, à travers ce thème de la nature, effectivement, il peut y avoir un rapport à toute cette pensée naturaliste dont on a parlé la dernière fois, dans le grand courant libertin, faisant apparaître les lois comme des impostures par rapport à la nature.
Les lois sociales.
Et religieuses. Et les normes, comme des impostures. Et, en quelque sorte, Don Juan non seulement promet le mariage, mais il se marie.
Il n'arrête pas.
Voilà. Et c'est une manière de dire que le mariage, comme disent Ganarelle, ne lui coûte rien. Dans la mesure où ce qui compte pour Don Juan, effectivement, ce serait la nature. Le mariage procède d'une série d'impostures dans cette tradition libertine. Mais, et c'est là que ça se complique, la deuxième partie de la tirade dit tout autre chose. Pourquoi ? Parce qu'on passe de l'idée qu'on glisse d'une beauté à une autre beauté, parce que chaque beauté est l'avant-goût de toutes les autres, et qu'il ne faut pas priver toutes les autres de ce don de soi, donc une parodie du discours moral. On passe de cette pratique de l'inconstance comme expérience de la multiplicité, à quoi ? À la décomposition d'une séduction, pas de 36 séductions. C'est ce qui plaît à Don Juan, c'est pas le catalogue.
C'est la singularité.
C'est pas la liste. Oui. C'est la singularité des petites résistances de la réduction. Et une fois que la réduction est achevée, il n'y a plus rien à dire.
Il n'y a même plus rien à faire. Il faut arrêter la liaison.
Voilà. Et alors là, on s'éloigne du paradigme naturaliste, de style épicurien. Néo-épicurien, enfin pseudo-épicurien, jouir de la multiplicité, éviter les fantasmes d'unicité qui nous obsèdent. Et on glisse dans toute autre chose, dans quelque chose qui est de l'ordre de presque de ce que Leibniz appellera la petite perception, les uneasiness, une forme de ce qui plaît à Don Juan véritablement. C'est le changement, non pas le changement de plaisir au pluriel, mais le changement dans le plaisir. Et une fois que le changement aboutit à son terme, il est obligé de passer à autre chose. Vous voyez, c'est pas l'amour de la multiplicité pour la multiplicité. Et donc là, on est dans un autre paradigme et qui est beaucoup plus même dangereux. Parce que,
pourquoi ?
Parce que l'inconstance pouvait renvoyer, au fond, à la nature de l'homme après la chute. Très souvent, on disait l'homme est naturellement inconstant. Vous lisez toute la poésie baroque, elle ne parle que de ça. Là, on parle d'un sujet qui prend en main sa propre pratique de la réduction de l'autre. Ce qui a fait que les Don Juan qui ont ressuscité la pièce, c'est-à-dire celui de Jouvet et celui de Villars, en 48 et en 53, avaient des accents pressadiens. Pour parler de Sade, c'est ce que disait Roland Barthes dans un magnifique texte sur les silences de Don Juan. Précisément parce que Don Juan, ce qui plaît à Don Juan, c'est pas la jouissance en tant que jouissance qu'on accumule, mais c'est plutôt cette activité de déliaison, de réduction. Et Jouvet mettait en avant avant tout cette cruauté.
Beaucoup de choses viennent d'être dites que je crois très importantes. Je vais vous laisser réagir vraiment comme vous voulez, peut-être en particulier à ce mot de Jean-Charles Darmon, c'est pressadien, certains aspects du Don Juan de Molière sont pressadiens. Qu'en pensez-vous, Michel Delon ?
Oui, j'évoquerais plutôt Casanova avant Sade, parce que là, on a quelqu'un qui est prêt à se marier. Pourquoi ? Parce que le mariage n'est plus un sacrement, mais un contrat, un simple contrat, et il peut y en avoir infiniment. Et Casanova, donc là, on est au XVIIIe siècle, lui ne va jamais se marier. Et on va avoir à la fois un Don Juan cruel, sordide. Il est capable de violer...
Casanova.
Mais tout ça considéré hiérarchiquement et socialement. Les filles du peuple, les soubrettes, on les traite comme Don Juan l'aurait fait.
C'est-à-dire comme les autres.
Voilà. Alors que le rêve de ce fils de comédien, c'est de parvenir à une galanterie aristocratique. Toute sa vie, il va chercher une place dans une société aristocratique, une place à la cour. Et c'est très difficile. Et ses relations amoureuses sont extrêmement raffinées à partir du moment où il est avec des jeunes filles de la grande société, des nobles, qui ont des titres de noblesse. Et à ce moment-là, il se conduit de manière très, très subtile. Et Don Juan, c'est l'inconstance.
Le Don Juan de Molière, en tout
cas. Le Don Juan de Molière, c'est l'inconstance.
Un siècle
d'accord.
avant.
Et chez Casanova, il y a toute une série de figures féminines. Il est dans la liste, d'une certaine manière. Mmh. Parce qu'il n'a pas de sganarelle pour tenir ses comptes. Donc,
il se débrouille tout seul avec
voilà,
ses listes.
Il doit établir son catalogue. Mais il y a des retours. Il y a des grandes, grandes figures qui le bouleversent, qui le fait pleurer.
C'est la jeune fille, c'est qui ? C'est la jeune fille qui le fait pleurer ? La très jeune fille ?
Non, non, non. C'est des jeunes filles. Enfin, il y a différentes, différents cas de figure. Mais une jeune femme qui rencontre comme ça, une Française qui rencontre en Italie, dont il ne dira jamais non parce qu'il est bien élevé, parce qu'il faut respecter la respectabilité de. Donc on ne sait jamais qui c'est. Il lui donne un prénom. Et elle a déjà une expérience. Donc, ils sont... Alors, socialement, elle est bien plus haut que lui. Et sexuellement, elle sait déjà beaucoup de choses. Et ils vivent ensemble quelques mois en Italie. et il va la retrouver.
Qu'est-ce qui l'émeut tant ? Qu'est-ce qui le fait pleurer ?
Qu'est-ce qui le touche ? Elle accepte de ne pas le considérer comme un valet, justement. Ils sont sur le même plan. Et, alors,
c'est l'égalité que crée le sexe qui le fait pleurer ?
Oui. Et alors, il y a autre chose. La première fois qu'il la rencontre, elle accompagne un officier hongrois. Et d'ailleurs, Casanova et le hongrois parlent le latin. C'est extraordinaire. Et elle est travestie en jeune ordonnance de l'officier.
En jeune.
Oui,
elle se déguise.
En ordonnance de l'officier, quoi. Ouais.
Elle passe pour un garçon, c'est ça que vous
dites ? Oui. C'est plus facile, à l'âge classique, une jeune femme qui veut se déplacer librement et voyager seule a intérêt à se travestir. De même, d'ailleurs, entre parenthèses, quand on est prêtre et qu'on va au bordel, on se travestit en femme. Il y a toute une
vous
pratique.
Vous m'apprenez plein de choses, c'était très intéressant. Mais revenez à l'émotion, s'il vous plaît, de Giacomo Casanova rencontre
donc,
cette femme.
Ce qu'il touche aussi, elle est travestie, et tout de suite il dit je savais que c'était une femme. C'est donc l'émergence du féminin dans ce qui a priori ne l'était pas. Là, il y a.
C'est ça qui le bouleverse.
Oui, je crois, parce que ça arrive plusieurs fois.
Alors je vais dire quelque chose qui est la même question que tout à l'heure et qui n'est sans doute pas très à la mode aujourd'hui, mais bon. Les œuvres sont ce qu'elles sont.
Oui, l'histoire, ça sert à ça.
Oui. C'est la nature qui émerge derrière l'artifice qui le bouleverse, Casanova. La nature féminine, c'est ça qui n'est pas à la mode. La nature, le féminin comme nature.
Oui, il y a quelque chose qui lui est étranger. Parce que dans la préface à l'histoire de ma vie, il dit « Le plaisir a été la grande affaire de ma vie. » Et toujours, j'ai été passionné pour le sexe qui n'est pas le mien. Donc, il y a une altérité qui émerge. Mais en même temps, on est dans ce monde où il y a énormément de travestis. À l'opéra, ce sont des castrats qui chantent. On n'est pas passé, je crois, on est en deçà d'un 19e siècle qui a totalement opposé les deux sexes.
Le 18e aime l'ambiguïté sexuelle, genrée, je veux dire, pour parler comme aujourd'hui.
Oui, je crois. Oui. Encore une fois, puisqu'on parle du Don Giovanni, ce sont des castrats qui chantent souvent des grands airs masculins.
Alors, ce que je vous propose, parce que cette comparaison est très riche, entre le Don Juan de Molière du XVIIe siècle et Casanova comme auteur, narrateur et personnage dans son texte en plein XVIIIe siècle. Les deux ont des points communs, vous venez de le dire, mais il semble que Casanova, au moins dans ce qu'il dit dans son texte, aime la non-maîtrise. Alors j'ai un peu l'impression que chez Don Juan, il y a un désir de maîtrise qui est plus grand. Et après tout, on est dans l'âge classique, rationaliste, ordonnateur. Ce n'est peut-être pas si étonnant. Mais peut-être qu'on se trompe sur Casanova. Écoutez un texte où il donne vraiment l'impression de ne pas vouloir ordonner l'érotisme, mais il donne l'impression non seulement de le subir, mais d'apprendre incessamment de lui et de cette femme. Il s'agit de son lien avec une des deux religieuses. Ah bah oui, tant qu'à faire. M.M., il y en a une autre, C.C., avec laquelle il couche aussi, mais là c'est avec M.M., c'est dans Histoire de ma vie, bien entendu.
Je me suis élancé entre ses bras brûlants, ardent d'amour, et lui en donnant les plus vives preuves pour 7 heures de suite, qui ne furent interrompues que par autant de quarts d'heure animés par les propos les plus touchants. Elle ne m'apprit rien de nouveau pour le matériel de l'exploit, mais des nouveautés infinies en soupirs, en extase, en transport, un sentiment de nature qui ne se développe que dans ces moments-là. Chaque découverte que je faisais m'élevait l'âme à l'amour, qui me fournissait des nouvelles forces pour lui témoigner ma reconnaissance. Elle fut étonnée de se reconnaître pour susceptible de tant de plaisir, lui ayant fait voir beaucoup de choses qu'elle croyait fabuleuses. Je lui fis ce qu'elle ne croyait pas permis d'exiger que je lui fisse, et je l'ai endoctrinée que la moindre gêne gâte le plus grand des plaisirs. Au carillon du réveil, elle éleva les yeux au troisième ciel, comme une idolâtre pour remercier la mère et le fils de l'avoir si bien récompensée de l'effort qu'elle avait fait quand elle me déclara sa passion.
Et c'est notre réalisateur Nicolas Berger qui lisait Casanova, ce texte très sensuel qui parle de la jouissance de cette femme dont il apprend beaucoup lui-même, dit-il. Alors je ne vais pas tout de suite faire réagir le spécialiste de Casanova, Michel Delon, mais précisément Jean-Charles Darmon, qui connaît bien le XVIIe siècle, Don Juan de Molière. C'est par ce genre de texte, c'est à ce genre de texte qu'on fait référence lorsqu'on dit parfois que Casanova, c'est l'anti-Don Juan. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, Don Juan, tel que Molière le transforme, hein, parce que n'oublions pas qu'il y a eu d'abord la tradition venant d'Espagne, où il n'était pas question du tout de ce genre de, d'expérience,
oui.
De l'excès, comme dirait Bataille.
Non, c'est vraiment celui de Molière dont on parle. Voilà. On parlera plus tard de celui de Mozart un tout petit peu. Mais là, on est sur Molière.
Mais Molière a fait véritablement de Don Juan, il a réinscrit Don Juan dans la tradition d'une pensée libertine, hein, dont on a parlé
oui,
la dernière
toute la
fois,
semaine.
Toute la semaine. Et effectivement, la question de la liberté de l'esprit, de l'affranchissement de l'esprit, est au premier plan. Puisque immédiatement après le texte qu'on a lu sur l'inconstance et la pratique de la séduction, il y a le dialogue, et continue avec Sganaret, il dit « Va, va, c'est une affaire entre le ciel et moi.
Oui. »
C'est-à-dire qu'on glisse immédiatement à quelque chose qui articule le physique, à quelque chose qui pourrait être un dialogue avec les fondements métaphysiques, hein, de ce, l'idée d'une quête, d'une recherche, de la liberté,
d'un refus majeur
de la liberté. Et donc, il me semble que ce donjon-là est particulièrement dangereux dans la mesure où la question de la sexualité est un peu tenue au second plan par rapport à, la question, à cette question de l'affranchissement. De l'affranchissement.
Mental.
Voilà. Et pour un grand nombre d'auteurs rattachés au libertinage, la sexualité intervient, hein, mais un peu, je dirais, comme une variable parmi d'autres, une variable d'ajustement, hein, dans cette dynamique de l'affranchissement.
Hein, et c'est vrai qu'on n'a pas, Casanova donne l'impression, en tout cas encore une fois, que la question du religieux n'est pas son problème premier. C'est absolument. Juste l'inverse par rapport à Don Juan.
Absolument. Il était, il devait être prêtre. Hein, il suit des études de théologie et le début de sa carrière sociale, c'est en soutane. Hein, et longtemps, il pense qu'il va y revenir. Il espère, il va à Rome en espérant un poste. Donc, en tant que religieux qui a déjà reçu les premiers ordres. Donc là, dans le texte qu'on vient d'entendre, il est avec une religieuse, mais qui elle-même est la maîtresse de l'ambassadeur de France, l'abbé de Bernis, l'ambassadeur de France auprès de la République de Venise. Donc on est dans un monde où la religion est presque désacralisée, où Le fait que cette religieuse ait une vie sexuelle, c'est pour des raisons sociales, c'est-à-dire que une fille de famille. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'il l'appelle M.M., c'est-à-dire que là aussi,
il la protège.
Hein, il n'est pas question de donner son nom, hein, qu'elle ait des ennuis.
Mais ne me dites pas quand même que c'est un hasard si c'est une religieuse. Il y a quand même une envie tout à fait donjuanesque de mettre comme première cible les religieux et en tout cas les injonctions de ne pas avoir de vie sexuelle quand on est croyant, religieux, engagé dans un couvent.
Chaque découverte qu'elle me faisait m'élevait l'âme. Bien sûr qu'on a un vocabulaire religieux. Et M.M., à la fin, elle éleva les yeux au troisième ciel et elle remercie la mère et le fils. Mais
ça, Don Juan, c'est tout à fait lui.
Oui, mais il n'y a pas de sacrilège, là.
C'est Casanova, mais c'est Don Juan aussi. Oui, c'est sacrilège quand même, non ?
Quand il écrit à la fin de sa vie l'histoire de ma vie, c'est ce qu'on appelle ses mémoires, hein, il veut pas avoir d'ennui avec la censure et il y a plus d'inquisition vénitienne, mais il reste toujours prudent. Il est libertin, si vous voulez, dans la mesure où il y a toujours les deux niveaux. À chaque fois qu'il passe à Rome, il rend visite au pape. Et il explique que le pape lui a donné l'autorisation de ne pas faire carême quand il faut et de lire les livres interdits. On lui dit « Ah bon ?» Oui, oui, mais il me l'a dit oralement et ça n'a pas été écrit. Donc, c'est un parfait catholique.
Oui, oui, bien sûr.
Il faut se confesser.
Alors, une autre question quand même, et on va revenir à Don Juan de Molière après. Ce Casanova, dans le texte que nous venons d'entendre, dit qu'il ne veut pas prendre, il veut être pris. C'est ça, séduire. Il y a cette inversion. Et puis en même temps, vous avez commencé l'émission, Michel Leland, en disant que non seulement il y a de la prédation, mais il y a du viol, etc. Chez Casanova. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas aussi un double discours ? Parce que tout à l'heure, je pense quand même qu'il y avait un peu de double discours.
Mais disons que il n'a pas besoin d'unifier sa vie, sa pensée. C'est l'antisystème. Donc, il accepte parfaitement. Hein. Pendant longtemps, en plus, l'histoire de ma vie a été lue dans un texte qui a été caviardé par les éditeurs du 19e. Mmh. Hein. Et ce n'est que depuis 1960, et même d'une certaine manière depuis que le manuscrit a été acheté par la Bibliothèque nationale de France, le texte est maintenant en ligne, qu'on a le vrai texte. Et on découvre que ce dévoreur de femmes a eu des expériences homosexuelles, mais qui ne pose aucun problème pour lui. Voilà, le plaisir est dans ce monde qui reste baroque, si on veut, dans ce monde où, entre le masculin et le féminin, il y a toute une série, toute une gamme de nuances, eh bien, tout cela, il faut en jouir.
Alors, la question de qui on est vraiment, un prédateur ou un homme passif et voulant apprendre des femmes, un irreligieux insolent ou au contraire quelqu'un très en paix, comme vous le suggérez, avec la chose religieuse. La question des masques, au fond, et peut-être du feuilletage des masques, c'est une question, pour le coup, que Molière traite directement avec Don Juan, puisque dans l'acte 5, Don Juan fait semblant d'être religieux et se moque des religieux en montrant que c'est une posture, un masque qu'il s'est adopté extrêmement bien. Écoutez ce moment très important et très connu du Don Juan de Molière.
Quoi ? Vous ne croyez rien du tout ? Et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien ?
Et pourquoi non ? Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier, qui se servent du même masque pour abuser le monde.
Mais il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on peut jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit d'un repos d'une impunité souveraine. Mais on lit, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du parti.
qui en choque un, se les jette tous sur les bras, et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus, et que chacun connaît pour être véritablement touché. Ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers, et appuient aveuglément les sages de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont habillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié, et deux roulements d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires.
Toujours Michel Piccoli en Don Juan, dans ce que nous venons d'entendre. Jean-Charles Darmon, je vous laisse commenter cet hymne ambigu à l'hypocrisie.
Oui, alors, c'est un texte où se poursuit la querelle du Tartuffe. Hein, c'est-à-dire que Tartuffe vient d'être, a été interdit. Molière ne songe qu'à rejouer Tartuffe. Et il y a eu des interventions de ce qu'on a appelé la cabale des dévots. Hein. Et d'une certaine manière, il écrit Don Juan, d'abord pour des raisons économiques, hein, il faut faire vivre sa troupe, puisqu'il ne peut pas monter Tartuffe, mais aussi pour répondre. Hein. Et donc au lieu de le fuir le débat dans Don Juan avec les dévots, il l'amplifie, puisque certains éléments de cette tirade seront repris par Molière, hein, avec des échos très puissants, quand Tartuffe pourra être publié et joué. Et les termes sont presque identiques. Ce qui est très important, c'est qu'il y a cette notion d'imposture, hein, qui est une notion fondamentale de la pensée libertine. Oui. Hein, l'imposture politique des religions instituées, qui est miniaturisée ici, hein, sur la scène de Don Juan, à l'échelle de l'hypocrisie, hein, qui est vice à la mode, hypocrisie qui a un sens d'abord religieux, hein, au XVIIe siècle. Le rôle d'hypocrite, hein, sur le théâtre du monde, est ici exposé et joué par Don Juan de manière à montrer qu'au fond, les imposteurs sont des séducteurs, bien plus que les libertins. Ils sont bien plus dangereux, hein, bien plus dangereux. Hein. Leur entreprise de séduction, à la fois de liaison et de déliaison, est bien pire. Hein. Et d'ailleurs, Sganerelle ne s'y trompe pas. Il dit « Ah, mais là, c'est ce qu'il y a de pire dans ce que je vous ai vu faire !» Donc, d'une certaine manière, l'imposture des dévots et des faux dévots, enfin des faux dévots séduisant les vrais dévots, est bien pire que celle dont on accuse le libertinage. Il y a un libertinage spirituel, mais absolument cynique des faux dévots, hein, avec laquelle contraste le libertinage de Don Juan, qui lui n'agit pas en groupe, en cabale, hein, il est seul. Hein, le Don Juan de Molière est seul, hein, à la différence d'autres libertins. Alors que ce qu'il montre là est beaucoup plus nocif. Hein. La compagnie du Saint-Sacrement, hein, à qui il s'adresse notamment, hein, qui a fait interdire Tartuffe, la compagnie du Saint-Sacrement agissait en secret. Le secret était sa loi. Et elle unissait toutes sortes de personnages qui pouvaient créer des cabales et donc une sorte d'État à l'intérieur de l'État. Elle était politiquement, elle pouvait être politiquement dangereuse.
Très dangereuse. Voilà. Ce que j'entends aussi, c'est que les masques et la pluralité des visages, ça fait partie de la nature pour le libertin. Mais tout cela n'est pas aussi grave que cet artifice absolument sans rapport avec la nature qui est la figure du dévot religieux, bien comme il faut, etc. Ouais. Est-ce que d'après vous, Michel Delon, ce genre de problème apparaît chez Casanova?
Je ne crois pas, parce que le masque pour ce Vénitien, où le carnaval dure plusieurs mois, et où on vit masqué, et où on ne sait plus jamais qui est qui.
Le masque fait partie de
la vie.
De la vie érotique.
Voilà.
Mais n'est pas grave. De ce point de vue-là, c'est un point de vue commun avec, voilà. Avec ce qui vient d'être dit de Don Juan. Tant que c'est dans Eros, ce n'est pas grave. Mais vous venez de me dire tout à l'heure que pour ce qui est de la religion, ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas de tirade cinglante, Casanova, comme Don Juan de Molière en avait.
Oui, et l'histoire de ma vie, c'est le contraire des confessions de Rousseau. Hein, Rousseau, c'est le calviniste genevois. Donc, il y a ce pacte de sincérité, d'authenticité. On ne peut dire que la vérité parce qu'on est nu devant Dieu. Alors que l'histoire de ma vie, c'est une réinvention de son existence avec toute une dimension, sans doute, de fiction. Mais la fiction, ce n'est ni vrai ni faux. C'est ce qui me fait plaisir. Hein, l'homme vieillissant a besoin d'imaginer toutes ces aventures qu'il a eues. Et placer ça du point de vue de la vérité, d'une vérité absolue, c'est une erreur. Hein, il a besoin sans cesse de masques et de fiction.
Oui. Alors peut-être que ce jeu-là, là nous passons vraiment au XVIIIe siècle, est très différent pour les femmes. Je voudrais ouvrir ce chapitre pour terminer, parce que voilà, je voudrais l'ouvrir à la fin de dernière partie d'émission. Et je vous propose pour cela d'entendre deux textes successifs. L'un dans Les liaisons dangereuses de Laclos, la lettre numéro 81 de Merteuil, qui est une lettre grave. Une lettre, vous la commenterez. C'est difficile pour elle, hein, quand même, plus que pour les autres personnages des liaisons dangereuses. Et ensuite, nous écouterons un passage de Sade sur Juliette. D'abord, Merteuil.
Vous jugez bien que, comme toutes les jeunes filles, je cherchais à deviner l'amour et ses plaisirs, mais n'ayant jamais été au couvent, n'ayant point de bonne amie et surveillée par une mère vigilante, je n'avais que des idées vagues et que je ne pouvais fixer. La nature même, dont assurément je n'ai eu qu'à me louer depuis, ne me donnait encore aucun indice. On eût dit qu'elle travaillait en silence à perfectionner son ouvrage. Ma tête seule fermentait. Je ne désirais pas de jouir, je voulais savoir. Le désir de m'instruire m'en suggéra les moyens. Je sentis que le seul homme avec qui je pouvais parler sur cet objet sans me compromettre était mon confesseur. Aussitôt, je pris mon parti. Je surmontai ma petite honte et, me vantant d'une faute que je n'avais pas commise, je m'accusai d'avoir fait tout ce que font les femmes. Ce fut mon expression, mais en parlant ainsi, je ne savais en vérité quelle idée j'exprimais. Mon espoir ne fut ni tout à fait trompé, ni entièrement rempli. La crainte de me trahir m'empêchait de m'éclairer, mais le bon père me fit le mal si grand que j'en conclus que le plaisir devait être extrême. Et au désir de le connaître, succéda celui de le goûter.
Pourquoi ne se repent-on jamais d'un crime de libertinage? Parce que le libertinage devient très promptement une habitude. Il en pourrait être de même de tous les autres égarements. Ô Juliette, si tu veux, comme moi, vivre heureuse dans le crime, et j'en commets beaucoup, ma chère, si tu veux, dis-je, y trouver le même bonheur que moi, tâche de t'en faire, avec le temps, une si douce habitude qu'il te devienne comme impossible de pouvoir exister sans le commettre, et que toutes les convenances humaines te paraissent si ridicules que ton âme flexible, et malgré cela nerveuse, se trouve imperceptiblement accoutumée à se faire des vices de toutes les vertus humaines et des vertus de tous les crimes.
Carla Michel était, de notre équipe, était Juliette dans cette lecture. Juliette, cette héroïne de Sade, qui connaît une véritable émancipation, en tout cas du point de vue de Sade, car au contraire de Justine, elle devient comme les hommes, dans le sexe et dans l'amour du meurtre. Ma question est celle-ci pour vous, Michel Delon. Est-ce que Merteuil est une préfiguration de Juliette ?
On peut établir ce fil. Hein, pour expliquer le passage qu'on a entendu, hein, Liaison dangereuse, c'est un roman épistolaire. Un homme et une femme sont complices dans le libertinage, Merteuil et Valmont. Et cette complicité va se défaire. Mais au moment de la confiance, Merteuil écrit à Valmont cette lettre où elle raconte sa vie. Et où leur complicité apparaît aussi comme une rivalité, puisqu'elle va lui dire « Pour toi, être libertin, c'est facile. Pour un homme, c'est facile. Hein, tout l'aurait permis. Alors que moi, j'ai dû me battre, j'ai dû ruser, j'ai dû réfléchir. » Et elle tient un discours dans cette lettre 81 qui est à peu près le même discours que Figaro qui dit, à la fois chez Beaumarchais et chez Mozart, qui dit à Alma Viva, quel mérite vous avez eu à devenir vice-roi des Amériques ? Aucun. Vous étiez un homme, vous étiez noble, c'est facile. Alors que moi, Figaro, j'ai dû me battre pour devenir ce que je suis. Et dans la lutte de Merteuil, elle explique que les femmes n'ont rien. Hein, tout est contre elles.
Eh bien, tout est plus difficile pour une femme pour devenir libertine.
Voilà, hein, bien sûr. La société fait qu'elle doit être une victime. Et elle a décidé qu'elle se conduirait comme un homme, mais forcément, on retrouve l'hypocrisie. Elle est forcément hypocrite, oui. Ce qui fait aussi que cette lettre 81 est une lettre quasiment impossible, et en même temps, elle donne des armes pour la détruire tout à la fin, puisque elle avoue ce qu'il ne faut jamais avouer.
Juliette réussit chez Sade, et puis il y a quand même cet apport de Sade qui fait que c'est la raison pour laquelle au début de l'émission je me demandais s'il était tout à fait inscrit dans la tradition libertine ou s'il ne dégageait pas quelque chose qui est un au-delà. Il y a une Juliette qui aime tuer, qui aime faire mal. Ouais. Il me semble que là on touche encore à autre chose, ouais. C'est Sade. Mais c'est vrai que Juliette réussit son émancipation, si c'en est une, mais c'en est une du point de vue de ses auteurs.
Dans
par rapport
fiction.
À Merteuil, elle prend moins de coups, si je puis dire. C'est un peu paradoxal de dire
c'est
ça.
C'est vrai que les Liaisons dangereuses, c'est un roman libertin qui se transforme en peut-être, éventuellement, en grand amour impossible entre Valmont et la présidente de Tourvel, contre Merteuil. Et Merteuil n'est pas tuée, mais elle est tuée socialement, elle doit s'enfuir à l'étranger. Hein, alors que Juliette, mais dans les deux textes, ce qui est étonnant hein, et intéressant par rapport à notre discussion, c'est que Merteuil va utiliser son confesseur,
oui.
Et que l'éducation de Juliette, c'est dans un couvent, et tout ce qu'elle apprend de philosophie, hein, c'est de la supérieure du couvent, la Delbène. Hein. Ce couvent, d'ailleurs, c'est le couvent, l'abbaye de Panthémon, hein, au cœur de Paris, où toute la noblesse du temps est éduquée. Et Juliette, ce qu'il y a de différent, c'est que chez Juliette, on parle de la théorie. Hein, on parle de la philosophie et on arrive, le plaisir, d'une certaine manière, est second. Hein, et alors, à partir du moment où on retrouverait peut-être en effet Don Juan à ce moment-là. Et à partir du moment où on s'engage dans cette dénaturation progressive, il n'y a plus de limite. Hein. Y a le plaisir sexuel, puis il y a le plaisir, la multiplication, puis toutes les transgressions, jusqu'à la transgression suprême qui est le meurtre.
Vous vous dites le plaisir est second. Bon, Annie Lebrun, qui nous manque, ne dirait pas du tout cela. Hein. Le corps est premier chez Sade. Et l'intellect doit entrer dans une nuit mentale, comme elle disait, pour laisser parler le corps et donc quand même quelque chose de la nature. Mais vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Hein.
J'ai beaucoup de respect pour Annie Lebrun, avec qui j'avais des relations. Ça peut sembler étonnant, on faisait des choses très très différentes, mais Annie Lebrun m'a dit J'utilise votre édition de la Pléiade. Les notes m'intéressent. Bon, elle parle en poétesse surréaliste et moi en historien des textes. Vous voyez, donc c'est le point de vue est différent. Mais dans l'histoire de Juliette, vous avez 10 pages qui sont de philosophie, souvent recopiées d'ailleurs de textes philosophiques. Donc le plaisir, est réinventé de manière...
intellectuel.
Oui, et sacrilège à ce moment-là. Ouais.
Vous pensez, Jean-Charles Darmon, que Molière avait une réflexion à partir de ce personnage de Don Juan sur les femmes? Parce que Molière, quand même, a beaucoup parlé des femmes. Ouais. Mais est-ce que Don Juan était un personnage qu'il avait pensé comme pouvant faire école, si j'ose dire, y compris chez les femmes?
Alors, avant Don Juan, il y a eu l'école des femmes, justement, la querelle de l'école des femmes. Agnès disant le moyen de chasser ce qui fait du plaisir.
Et les femmes, ils les accusent souvent d'être, d'avoir fui dans l'intellect, mais c'est aussi leur seul mode d'émancipation. Ce n'est pas que critique, il les comprend aussi. Et puis, il trouve qu'elles manquent de corps.
Absolument. Mais je pense ce travail sur soi qu'on trouve dans la lettre 80 de la Mertha, il y a toute une histoire. Et il y a une figure qui fascine tout le XVIIe siècle, et même le XVIIIe, qui va le ressusciter de manière apocryphe, c'est Ninon de l'Enclos. Parce que Ninon de l'Enclos, elle aussi, c'est la figure de la courtisane qui a dû être courtisane dans un monde d'hommes puissant, et qui est devenu le prototype de la courtisane philosophe. Saint-Évremond, le grand Saint-Évremond l'appelle la moderne Léontium. Léontium, dans l'école d'Épicure, c'était à la fois la maîtresse d'Épicure et celle qui lui a succédé à la tête du jardin.
Et donc on est en quel siècle ?
17e.
Toujours 17e, là. Ouais. Ouais.
Et l'épicurisme rappelle, comme le rappelle Gassendi, et un mouvement philosophique qui ne crée aucune hiérarchie entre les hommes et les femmes, ontologiquement.
Y a-t-il vraiment des femmes ?
Dans le jardin, oui.
Et qui écrivent ?
Qui dirigent le jardin, Léontium. C'est un modèle tout à fait particulier, l'épicurisme, de ce point de vue. Et un grand nombre de textes, et Molière lui-même a en tête... ce modèle de Ninon, avec quelques autres modèles, qui, à mon avis, préfigurent ce que disait Michel Delon, à bien des égards.
Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que au milieu du XVIIIe siècle, il va y avoir la publication des lettres de Ninon de l'Enclos au marquis de Sévigné, qui est une fiction, mais où là, Ninon de l'Enclos fait l'éducation d'un jeune noble et lui explique que il ne faut pas qu'il croie à l'amour, au grand, et qu'il soit réaliste. Elle lui donne une éducation et philosophique et sexuelle pour survivre dans la réalité du monde.
Et il y a beaucoup de femmes libertines qui écrivent au XVIIIe siècle ?
Non. Non.
Qui, par exemple ? Donnez-nous quelques noms.
Mais là aussi, il y a des nuances.
D'accord.
C'est-à-dire, par exemple, Madame de Tencin, la chanoinette de Tencin. Femme noble, mise dans un couvent par ses parents. Elle arrive, au bout d'une vingtaine d'années, à faire appel de ses vœux, en disant qu'ils ont été forcés, qu'ils n'avaient pas le consentement. Et elle va sortir, donc. Et c'est la maîtresse du régent, du futur cardinal Dubois, de toute une série de gens. Et elle écrit. Elle écrit des textes absolument pas pornographiques. Mais en fait, quand on lit très bien, par exemple, les mémoires du comte de Comminges, on s'aperçoit que le comte de Comminges, étant devenu lui-même religieux, eh bien, la femme qui l'aime va se déguiser en homme pour entrer dans le couvent et être à côté de lui. C'est un texte totalement scandaleux, sans en avoir l'air. Et alors, la véritable femme qui écrit pour la première fois des textes pornographiques, c'est Madame de Choiseul-Meuse, à la toute fin 18e, début 19e siècle, qui écrit des textes absolument sidérants, qu'on a oubliés pendant deux siècles et qu'on redécouvre. Julie, J'ai perdu ma rose, c'est l'histoire d'une libertine qui fait tout, mais en restant vierge. Tout.
Écoutez Les Liaisons Dangereuses par Art Blakey and the Jazz Messengers, 1960. C'est une musique qui a été composée pour le film de Roger Vadim de cette année-là, Les Liaisons Dangereuses. Merci beaucoup Michel Delon, Jean-Charles Darmon, c'était à mon avis passionnant. Les références de vos travaux sont précisées sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Nassim El Kabli, chronique qui se tiendra désormais le jeudi, tandis que Frédéric Vance présente son Pourquoi du Comment, comme vous le savez, du lundi au mercredi. Voici le fil philo qui porte aujourd'hui sur « Peut-on être ami avec une IA ?» Rousseau vous répond.
Le fil philo.
Vous connaissez les chatbots, vous interagissez avec eux, mais pensez-vous qu'ils vous écoutent? Qu'ils vous écoutent vraiment? Pensez-vous qu'ils vous aiment comme un ami? Jean-Jacques Rousseau, lui, n'a pas connu les objets conversationnels. Et pourtant, il nous dit quelque chose de très éclairant. Dans L'Émile ou de l'éducation, paru en 1762, Rousseau distingue l'attachement de l'amitié à partir d'un principe simple et puissant, le principe de réciprocité. Voici ce qu'il écrit. L'attachement peut se passer de retour, jamais l'amitié. Tout homme qui n'est pas l'ami de son ami est un fourbe. L'attachement peut se passer de retour. C'est d'autant plus vrai pour les objets auxquels nous sommes attachés. Ni votre pull préféré, ni le chatbot n'éprouvent de sentiments pour vous. Certains objets ont bien sûr une valeur sentimentale. Le pull tricoté par votre grand-mère. Mais ce que l'on aime dans ce pull, c'est sa grand-mère. Avec un chatbot, ça ne marche pas. Sa fabrication exige des milliers de mains et le travail d'ingénieurs ou d'ouvriers que nous ne connaissons pas. Pourtant, avec le développement de l'intelligence artificielle et l'apparition des chatbots, de nouveaux types d'attachements sont apparus. Aujourd'hui, il existe même un domaine de la recherche en robotique qui s'intéresse à l'informatique émotionnelle. Mais comme Rousseau nous l'apprend, l'attachement n'est pas l'amitié. Cela mérite quelques précisions. Un robot ne peut pas être un ami parce que l'amitié n'est pas une relation à sens unique. Nous demandons à l'intelligence artificielle des réponses à nos questions, mais l'intelligence artificielle, elle, ne nous demande jamais rien. Il y a une autre différence entre le robot et l'ami. Nos amis savent qu'ils peuvent compter sur nous dans leurs moments de fragilité. Mais le robot n'a pas le droit d'être fragile. Il doit être ultra performant, il doit être efficace, maintenant, tout de suite, toujours. La défaillance technique du robot ne nous rend pas triste. Elle nous exaspère, elle nous met en colère. Si les chatbots répondent à nos besoins, en revanche, nous ne répondons pas aux leurs. Le principe de réciprocité qui définit l'amitié n'est donc pas respecté.
Allô, Carl, est-ce que tu me reçois? Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A.
Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.
À la différence de Carl, l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace, les robots sociaux sont utiles. Par exemple, les robots thérapeutiques qui permettent de soigner l'angoisse ou les troubles de l'anxiété. Mais l'utile et l'essentiel sont deux choses différentes. C'est parce que nos liens sociaux sont essentiels que l'on crée des robots qui nous ressemblent, les humanoïdes. Ces robots imitent nos comportements, y compris nos comportements affectifs. Mais ce ne sont que des imitations. Imiter la colère en haussant la voix, ce n'est pas éprouver de la colère. Ce que Rousseau nous apprend, au fond, c'est que nos attachements sont multiples. Nous nous attachons aussi bien à des choses qu'à nos amis, nos voisins, notre famille. Mais ces multiples attachements sont tous différents. Les objets, même les robots les plus perfectionnés, ne nous écoutent pas vraiment et ne peuvent pas nous aimer. Souvenez-vous, toute personne qui n'est pas l'ami de son ami est un fourbe. Considérer un chatbot comme un ami, c'est donc en faire un fourbe, puisqu'il ne peut pas nous rendre l'amitié qu'on croit lui porter. Mais le chatbot n'est ni un ami, ni un fourbe. Bien distinguer nos attachements commence d'abord par bien les nommer.
Merci Nassim El-Khabli. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Nassim El-Khabli, Corinne Amar et Victoire Mellet. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!